Interview.
2 jours.
On est à la Villeneuve à Grenoble, dans les beaux quartiers. Un beau quartier de la Villeneuve. On parle ici au niveau humain. Et je suis en compagnie de Robin Decle, qui est l'un des initiateurs, un des fondateurs de Madame Otabaga, qui est un projet social. Et on va demander à Robin de se présenter rapidement et nous parler de la naissance du projet.
Ouais, bonjour. Alors, moi j'ai travaillé 2 ans comme animateur social dans l'Essonne, dans les quartiers sud de banlieue parisienne. J'étais au départ recruté plutôt pour être animateur jardin, sur des jardins coopératifs et des ruches, ruches et pédagogiques. Mais où je me suis retrouvé aussi à faire des ateliers de rue, animer des ateliers de rue, des ateliers dans le quartier, au pied des immeubles, et puis du travail d'accompagnement social avec des familles, avec des personnes en situation d'isolement. Voilà. Donc ça avec l'association Intermède Robinson, qui existe depuis déjà une 20aine d'années là-bas, et qui fait un travail donc, qui se revendique du courant de la pédagogie sociale.
Tu peux dire 2 mots sur la pédagogie sociale?
Qui serait une pédagogie, on va dire à l'inverse de la pédagogie traditionnelle, qui serait une pédagogie descendante, d'enseignant à élève, d'éducateur à éduquer, plus dans un rapport collectif et à partir du milieu, c'est-à-dire pas un environnement spécifique ou artificiel qu'on aurait défini et qu'on aurait construit pour être pédagogique, mais à partir du milieu dans lequel on est, donc la rue, le quartier, les relations qu'on y a, et le travail qu'on y a ou qu'on n'y a pas, etc. quoi. C'est une pédagogie un peu transversale qui concerne tous les âges et qui a une volonté de transformation sociale, d'émancipation.
Donc, Madame Otabaga, pourquoi Madame Otabaga, le nom est venu comment?
Le nom, il est venu un peu comme ça. C'était une proposition d'une des fondatrices de l'association. Voilà, parce qu'il y avait le mot rue dedans, que la sonorité nous plaisait bien, et on disait que ça pouvait aussi parler. Voilà, c'est une sonorité qui pouvait parler un peu à tout le monde, y compris aux enfants, qui pouvaient se reconnaître dedans.
Donc la naissance du projet?
Alors la naissance du projet, donc suite à cette expérience en banlieue parisienne, donc avec une autre personne aussi qui était passée par cette association dans l'Essonne, on a créé l'association en 2013 sur le quartier de la Villeneuve. Au départ, ça partait qu'il y a un groupe d'habitants qui a commencé à défricher les toits d'un parking pour jardiner. Et on a commencé à faire des petits ateliers dessus pour les enfants, des petits goûters, animer des petits goûters, voilà. Et assez vite, on a commencé à animer un atelier hebdomadaire toutes les semaines. Voilà, et ça a commencé à rassembler du monde. Ça c'était fin 2012, donc début 2013 on a créé l'association voilà, pour commencer à structurer un peu l'action, essayer de démarrer d'autres ateliers de rue, voilà, augmenter un peu nos moyens.
Donc il y avait un existant dès le départ, il y avait une initiative d'habitants, voilà, et vous vous êtes greffé dessus, ouais, pour donner de la consistance et avec des objectifs particuliers.
C'est ça.
Alors ces objectifs, tu peux en dire 2 mots ou même plus?
Alors les objectifs, je vais rester un peu large parce qu'on n'a pas de vraiment d'objectifs précis, déterminés, préétablis. On travaille à partir de l'existant, du contexte, du hasard, des rencontres, des nécessités, des besoins, des envies qui se passent. Donc on n'a pas, on n'est pas dans une logique de projet, par exemple.
D'accord.
Voilà. Mais l'idée globale, on pourrait dire que je pense que ça résumera assez bien de dire qu'on essaye de créer du mouvement. Rosa Luxembourg disait « Seul celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes ». On peut dire que nous, on essaye de bouger ensemble. pas de faire bouger les gens, hein, c'est pas, mais de nous bouger ensemble. Et donc, pour ça, bah, créer de la rencontre, créer de l'inattendu, créer de l'imprévu, dans l'idée de bouger ensemble et de pouvoir identifier les chaînes qui nous retiennent, qui nous oppriment.
Des demandes et des attentes.
Nous, on va pas répondre forcément à des demandes et des attentes dans le sens où on pourra avoir des demandes et des attentes envers une institution auprès de laquelle on va vouloir aller faire valoir des droits. Nous, on n'est pas vraiment dans cette posture-là parce qu'on n'est pas une institution. On est une petite association. Voilà. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire émerger, c'est
une dynamique, préserver une dynamique.
Voilà, un peu un processus que ce que Paulo Freire appelle le processus de conscientisation et de capacitation, donc c'est-à-dire de conscientiser des problématiques communes et ensuite de les de pouvoir agir dessus.
Et là, vous en êtes où ? L'évolution du progrès, du projet, c'est passé comme, même si tu ne l'appelles pas projet, on va quand même mettre le mot projet sur l'idée de cette dynamique de quartier. Donc vous êtes parti avec un existant qui était les habitants qui avaient des initiatives sur des toits de parking, de prendre en compte un aspect jardin, on peut dire vivre, presque un souci vivrier, où il y avait un besoin à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que c'est qu'est née l'idée du jardin, de la friche défrichée.
Je pense que les premières personnes qui sont venues défricher, je pense que c'était plus dans une idée d'impulser quelque chose, puis d'avoir une petite parcelle un peu collective ou planter quelques trucs.
D'accord.
Mais dans l'idée de faire un truc
ensemble.
Je pense que c'était ça les premiers. Mais très vite, en fait, y a comme c'était vraiment en bas des fenêtres des immeubles, au pied des immeubles, il y a plein de gens qui ont vu ça et qui sont descendus sur le parking et qui ont commencé à faire leur truc. Et donc certains qui faisaient leur parcelle hyper bien entretenue, au cordeau, mais vraiment là plus dans une optique, à mon avis, vivrière.
Comment se sont faits les premiers contacts?
Il y avait des affinités, des personnes qu'on connaissait déjà d'avant. D'accord. Et puis après, le contact, de toute façon, on se pose, on offre un goûter. Au départ, c'est les enfants qui font le contact surtout. Les enfants, ils viennent, on déroule un tapis avec des jouets, il y a de quoi boire, grignoter ensemble. Les enfants, ils viennent. Et puis après, éventuellement, des parents, éventuellement des personnes qui voient qu'il y a du monde, donc ils viennent aussi.
Voilà. Donc l'intérêt en fait de cette initiative, c'est qu'on ne sent pas de hiérarchie, il y a un mélange d'initiatives. Vous êtes là pour poser un minimum de structure, proposer certaines animations et voir s'il y a des répondants. S'il n'y a pas de répondants, vous laissez tomber, vous passez à autre chose, vous sollicitez éventuellement les habitants, vous leur demandez des propositions. Comment ça se fait, l'évolution du projet, c'est fait comment depuis le début jusqu'à aujourd'hui?
Alors déjà, c'est pas arrivé qu'il n'y ait pas de répondants. Au départ, l'idée, c'est on s'installe dans la rue. On s'installe de manière à ce que ça soit agréable d'y être et à ce que de fournir un prétexte aux personnes pour y être, pour donner une raison d'y être, qui fasse qu'on puisse se retrouver à plusieurs dans la rue sans que ça soit bizarre ou sans que voilà. C'est un peu la base, c'est un peu dérouler des nattes qu'on met au sol, des nattes de toutes les couleurs. Il y a toujours un tapis petit d'enfance, tapis d'éveil, un tapis lecture, un tapis jeu de société. On a toujours une table avec du café, du thé, un peu de lecture. Et après, à partir de là, on va dérouler des animations, là, suivant les envies, les attentes, les besoins, le contexte, les personnes qui sont là pour proposer des choses aussi. Et on va finir l'atelier par un goûter et un conseil. Donc le conseil, c'est un temps où on se rassemble, là, tout le monde, on se met en rond et on a une marionnette de parole. Et on a quelqu'un qui fait le compte-rendu. On discute de qu'est-ce qu'on a aimé ou pas sur l'atelier, qu'est-ce qu'on aimerait pour les prochaines fois, et puis de qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le quartier, dont on a envie de parler. Voilà.
Ça concerne tous les âges, là, quand vous faites le conseil? Ça se passe comment?
Alors, c'est ouvert à tous les âges. Le conseil, il est ouvert à tous les âges, mais c'est quand même principalement les enfants. Okay. On va dire, sur les ateliers de rue, le public, c'est de toute façon, les participants, participantes plutôt, c'est à 70% voire 80% des enfants de 0 à 14 ans, on va dire. On a quelques jeunes qui viennent, mais moins. C'est vrai, la tranche d'âge entre 14 et 18, on a moins. Et puis après, ça va être les les familles ou des personnes seules qui vont venir.
Donc c'est ouvert à tout le monde, les copains, les gens qui habitent le quartier, les jeunes qui habitent là ont des copains qui peuvent venir s'il n'y a pas de règles. C'est spontané, il n'y a pas d'autorisation administrative, on est dans notre quartier, on l'investit et on fait ce qu'on y a à y faire.
C'est ça, c'est gratuit, pas d'adhésion, pas d'inscription,
d'accord.
Il n'y a rien d'obligatoire, donc il y a une adhésion possible à l'association, notamment pour ce qu'on fait en annexe des ateliers de rue, des sorties, des soirées, voilà, des choses qu'on peut organiser par ailleurs. Qui est de 1 euro par famille et par an. Hein, donc, mais pour les ateliers de rue, y a pas de, on ne demande pas de ni adhésion, ni autorisation parentale ou autre. On considère que si les enfants sont là, c'est que les parents les ont laissés venir.
Voilà. La fréquence de Madame Otabaga.
Par rapport à l'évolution aussi, du coup, au début, on a commencé avec un atelier de rue tous les samedis, puis deux, puis trois, puis un quatrième qui se fait sur un bidonville ou un campement, donc en dehors du quartier.
Toujours sur Grenoble ?
Toujours sur Grenoble ou agglomération grenobloise. Voilà, et qui, on a des fois du mal à maintenir, bon, notamment en raison des expulsions, en raison de nos moyens aussi humains, matériels, pour le maintenir. Mais voilà, donc là, actuellement, par exemple, là, on n'en a que 3 par semaine. On va bientôt reprendre ce quatrième atelier sur un campement au bidonville.
Qui se fait après l'école ?
Alors, on a expérimenté plusieurs créneaux pour cet atelier en bidonville. Oui, l'idée, c'était... on a eu des créneaux qui étaient à cheval, sur temps scolaire et temps hors scolaire, ce qui permettait d'avoir un premier temps avec moins d'enfants, mais qui sont vraiment les enfants qui n'ont pas du tout de scolarisation, et après d'avoir un deuxième temps où il y avait les autres qui rentraient de l'école aussi, et du coup là qui permettait de faire un temps plus convivial, et puis le goûter à ce moment-là qui venait avec tout le monde. Voilà, là on va les relancer, on s'est dit plutôt le mercredi après-midi, comme ça tout le monde peut être là aussi en même temps. Voilà, on a expérimenté, c'est aussi un peu en fonction des possibilités, parce que ça repose aussi sur du bénévolat, ce qu'on fait, sur les disponibilités des uns et des autres, donc les emplacements des bidonvilles, est-ce que c'est facile, compliqué d'y aller, en transport, etc.
Et l'organisation, donc, au niveau structure, il faut toujours un minimum de structure dans une organisation, de Madame Otabaga, ça fonctionne comment ?
Donc là,
en interne.
On en est actuellement quand même à 3 à 4 ateliers de rue par semaine, toutes les semaines, toute l'année, hein. Ça représente quand même un certain volume d'activité. À chaque fois, en moyenne par atelier, on a 35 personnes. Quand même. Donc ça brasse quand même du monde aussi. Donc ça veut dire des moyens humains, ça veut dire du matériel, ça veut dire acheter des goûters, etc. Au niveau du fonctionnement, nous, on a actuellement donc là, une salariée à temps partiel et normalement, là, bientôt, une deuxième salariée qu'on va pouvoir embaucher. Bon, c'est toujours très précaire, on a des financements... On est vraiment d'une année sur l'autre, à jamais savoir si on va terminer l'année.
On en reparlera. Ouais. Donc voilà. Actuellement en poste, vous êtes combien ?
Là aujourd'hui, il n'y a qu'une personne. Dans un mois, on a la réponse pour un nouveau poste et une deuxième personne. En général, pour tenir, la structure a plutôt besoin de 2 salariés. Quoi. Enfin,
d'accord.
C'est un minimum pour que ça tienne.
Sur des temps partiels ?
La salariée là, qu'on pourrait prendre, ça serait un temps plein. Ça serait la première fois.
Ah,
jusqu'à
ouais.
maintenant, ça a été. On a eu 2 salariés, mais toujours à temps partiel, ce qui faisait un équivalent un temps et demi.
Ok. Voilà. Rémunération, SMIC.
Rémunération, SMIC.
Ouais.
Voilà. Vraiment toujours à ras les pâquerettes. Et notre bataille, c'est toujours juste d'arriver à payer les salaires.
Voilà, ce qui est... Avec des débordements horaires, un taux de bénévolat.
Alors, contre,
des salariés, non ?
Non. Les salariés, on essaie d'être strict sur ce truc-là. Okay. Par contre, ce qu'on a fait, là, on a l'agrément depuis l'année dernière service civique pour accueillir des services civiques. Et on en a 5. Ce qui fait une bonne équipe. Ça permet, le fait d'avoir 5 services civiques, ça nous permet d'avoir une vraie dynamique de groupe. Ça nous permet d'être relativement détendu aussi. Enfin, du coup, que... ça mette pas la pression sur l'équipe ou sur les salariés et tout. De prendre vraiment du temps pour les former, pour discuter du fond, du contenu avec eux, leur permettre de prendre en main le travail qui est fait. Voilà, donc ça, nous, ça a été un parti pris. Hein,
Le recrutement se fait comment au niveau des salariés ? Il y a des exigences au niveau de leur formation ? Il y a quoi ?
Alors non, ça s'est fait. La salariée là, actuellement en poste, c'est parce qu'elle a été en service civique à un moment donné. On a une possibilité d'ouvrir un poste, elle était intéressée. Voilà.
Elle fait ses preuves sur le terrain.
Voilà, et ça s'est toujours fait comme ça.
Oui. Et le bénévolat, ça représente quoi ?
Ben là, moi, j'y suis à 3/4 temps en bénévole là, actuellement. Il y a une dizaine de bénévoles, en gros, qui gravitent, qui viennent... Il y en a qui font un atelier de rue par semaine, toutes les semaines, pratiquement. Il y en a qui viennent plus ponctuellement. Voilà. Dans le CA, on est 9 personnes. Donc quand tout le monde est là, donc les 9 personnes du CA, 5 services civiques, donc 1 à 2 salariés, 1 à 2 salariés, souvent 1 à 2 stagiaires en plus, stagiaires en travail social. Voilà.
Quelle image vous avez dans le quartier ?
Je pense qu'on a, une très bonne image globalement dans le quartier. Enfin, moi, les retours que j'ai au quotidien, c'est des vraies déclarations d'amour. Quoi. C'est, pas pour moi, hein, mais pour l'association, pour Madame Rita Baya.
Pas de résistance, pas d'hostilité, pas de qu'en dira-t-on malveillant.
Ça nous est arrivé de nous faire titiller parce que sur notre légitimité, à être là, sur le fait qu'on pouvait être assimilé, disons, du coup là on passe plus dans la partie globale, mais disons que il y a sur les quartiers politiques de la ville, comme c'est le cas de la Villeneuve, il y a des financements spécifiques pour ces quartiers-là. Et je pense qu'il y a eu des moments, des endroits ou des structures qui ont pu abuser de ces financements-là.
Au niveau social.
Se placer spécifiquement sur ces financements-là, venir dans des quartiers prioritaires pour pouvoir toucher ces financements-là, sans forcément fournir un travail réellement d'intérêt pour le quartier en lui-même.
Toujours au niveau secteur social.
Oui, en intervention sociale. Nous, on est un peu hybride entre intervention sociale, animation, pédagogie. Souvent, les gens, les institutions en particulier, ils ne savent pas trop dans quelle case nous mettre. Même pour les financements, des fois, c'est compliqué. Ils ne savent pas si on peut émarger à tel ou tel. Ou alors, ils se renvoient la balle pour pas nous donner. Mais bon, voilà, disons qu'il y a pu y avoir des choses comme ça, y compris sur le quartier de la Villeneuve, et que du coup, il y a une certaine méfiance parfois vis-à-vis de structures de la part d'habitants. Mais comme on est là tout le temps, dans la rue, par tous les temps, qui pleuve, qui neige, qu'on fait vraiment des choses, qu'on est vraiment là, voilà, on peut aller faire un tour dans le quartier, c'est sûr qu'on va rencontrer 3 ou 4 familles qui me connaissent, qui connaissent Madame Rita Baya, qui viennent à l'association, juste là en faisant un tour. Quoi.
Ouais, ça vous légitime quand même.
Voilà,
ouais.
Du coup, en fait, on a vraiment une bonne... Voilà, ça fait 6 ans aussi qu'on est là, 6 ans qu'on est là, sans interruption, donc ça compte. Voilà. Je pense qu'on est vraiment reconnus.
Au niveau pratique, il y a un point de repli quand vous êtes dans la rue, mais quand il pleut, neige, vente et l'hiver et autres, il y a un point de repli.
Alors ça, ce qui est pas mal à la Villeneuve, c'est que ça a été un peu pensé, conçu avec des coursives, c'est-à-dire que sous les immeubles, il y a des passages, il y a toujours des... Si on regarde à l'Arlequin, par exemple, les immeubles, ils sont presque construits sur pilotis, presque, donc on peut se mettre en dessous. Et,
okay.
Voilà, on trouve toujours un endroit où s'abriter pour faire les ateliers.
Okay.
Voilà. Mais l'idée, c'est que nous, on est là de toute façon. Parce que par exemple, sur les bidonvilles, c'est pas le cas. On n'a rien pour s'abriter. Des fois, on est dans la boue, on patauge dans la bouillasse. C'est important pour nous d'être là quand même. Il y aura en général moins de monde sur les ateliers quand il fait froid, quand il pleut. C'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais bon, ça arrive que du coup, il y ait moins de monde. Mais on se dit que les personnes, les enfants qui viennent sur ces ateliers-là, c'est que vraiment ils en ont besoin, quoi. Voilà.
Au niveau des ce qu'on pourrait appeler des figures tutélaires, c'est un bien grand mot, mais quand on parle de pédagogie, tu me parlais de pédagogie tout à l'heure, vous faites référence à qui en général ou en particulier?
On va dire que nous les références qui reviennent quand même régulièrement, c'est James Korczak, Célestin Freinet et Paulo Freire.
Tu peux nous dire deux mots sur ces...
Dans l'idée de pédagogie, pour moi, il y a l'idée de comment on fait groupe et comment un groupe se constitue et travaille sur lui-même. Et chacun de ces pédagogues-là, il amène un peu une notion différente dans cette manière de faire groupe. Et bon, c'est un peu schématique de le présenter comme ça, mais moi, je mets pour Korczak l'idée de l'organisation. Korczak, c'était un pédagogue polonais qui a été directeur d'un orphelinat et qui était dans les années 30-40, pour qui l'enfant n'était pas un être social en devenir, qu'il fallait préparer à intégrer une place dans la société, mais c'était déjà un individu social.
Un être à part entière.
Voilà, un être à part entière et avec une place de membre de la société à part entière aussi. Donc c'est un peu lui qui a à l'origine de la Convention des droits de l'enfant. On le connaît aussi parce que sous l'occupation, il y a eu les Allemands ont fait une rafle dans l'orphelinat, ont emmené tous les orphelins, mais comme lui c'était un peu une personnalité, ils lui ont proposé de rester, et lui il a décidé de partir avec les enfants de l'orphelinat en camp de concentration et où il a été exterminé à Treblinka. Voilà, mais dans tout cas, lui, dans ce qu'il amène au niveau pédagogique, moi ce que je retiens c'est l'idée d'organisation. C'était dans l'orphelinat, c'était très structuré et les enfants avaient. L'organisation était prise en charge par les enfants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il avait instauré ce qu'il appelait une république d'enfants avec un tribunal d'enfants tenu par les enfants, donc qui gérait en interne les problèmes de discipline, qui gérait c'était la répartition du travail était gérée en interne aussi, avec une valorisation des tâches quotidiennes de ménage, d'entretien.
À quel niveau on le retrouve ici avec Madame Montabaga?
Dans cette idée d'organisation, nous par exemple, ça va être les goûters, de dire il y a des responsables goûters, donc on a des colliers, donc les enfants qui veulent distribuer le goûter, ils viennent nous voir, ils viennent se servir, ils viennent prendre avec les colliers de responsabilité goûter, ils le mettent, et du coup ils sont identifiés comme ça, c'est eux qui préparent le goûter, qui le distribuent. Après au moment du conseil, le fait même qu'il y ait le conseil, ça vient un peu de ça aussi. Et dans le conseil, il y aura le responsable qui prend des notes, celui qui passe la parole, des choses comme ça. Et puis dans l'idée que l'enfant est un être social à part entière, qu'on ne va pas faire de...
On ne projette pas un modèle dessus.
Ouais, on essaye d'éviter de projeter un modèle et d'avoir une posture du coup d'autorité d'adulte à enfant, quoi. Donc ça c'était pour Korczak. Pour freiner, moi ce que je retiens c'est le travail, l'idée de production collective, de dire que du coup les enfants aussi ont les productions des enfants ont aussi une valeur sociale et que le fait que on fait groupe aussi parce qu'on produit ensemble, quoi. Et donc freiner, l'exemple c'est il avait installé une imprimerie le fait de faire un journal et qu'il soit imprimé avec une vraie imprimerie professionnelle, que le journal soit édité, imprimé, vendu, diffusé à l'extérieur. Voilà. Donc, de dire, c'est pas juste on apprend aux enfants à lire et à écrire, c'est on les apprend à lire et écrire en faisant, en travaillant, en produisant quelque chose qui a un contenu qui ensuite est diffusé, qui a une valeur sociale reconnue. Et Paolo Freire, moi je retiens pour le côté de faire groupe, c'est le fait de conscientiser ensemble des rapports d'oppression et d'agir dessus.
Concrètement ici?
Concrètement, je pense que ça va passer au travers d'activités, surtout d'expression au départ. Les ateliers radio, par exemple, qu'on a pu faire sur le quartier, le fait de faire émerger la parole. Pareil, des conseils peuvent faire ça. On a aussi, comme on organise des soirées une fois tous les deux mois, il y a un groupe de femmes qui s'est beaucoup impliqué dans la préparation, l'organisation de ces soirées. Et du coup, il y a aussi des choses là qui se passent du fait que du coup, elles se retrouvent avant entre femmes pour préparer, organiser. Que du coup, il y a aussi des discussions qui émergent à partir de là. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt de permettre les espaces, les moments où la parole puisse émerger, où il puisse y avoir une parole collective qui se dessine.
Où les problèmes surgissent là et ils sont éventuellement évoqués.
Et ça va se faire par petites touches en fait, c'est un peu comme par petites touches de fond dans ce qu'on fait dans le quotidien. Ça ne va pas sauter aux yeux quand on vient sur un atelier de rue.
D'accord.
C'est quelque chose qui va apparaître à des petits moments comme ça. Ça peut aboutir. Je sais pas, si je cherche des exemples concrets, ça peut être, nous on a fait une lettre à un moment avec les enfants, donc ils ont rédigé une lettre pour dire à la mairie qu'ils réclamaient une balançoire, ils ont signé tous, qu'ils ont fait sur une grande feuille, une immense feuille de papier avec des crayons de toutes les couleurs et tout ça, mais voilà, on a envoyé à la mairie la lettre où ils réclamaient d'avoir une balançoire. Ça peut être des discussions et des peintures, autour du fait qu'il y ait des démolitions prévues dans le cadre de la rénovation urbaine. Donc bah là, c'est comme c'est un sujet qui revient souvent parce qu'il y a un endroit où donc on fait au pied de tours qui vont être démolis, donc où il y a beaucoup de familles qui partent petit à petit, enfin les appartements se vident petit à petit. Du coup, donc on en parle, ça vient tout seul, le sujet vient tout seul. Donc à partir de là, bah, dire bon bah d'accord, alors on en parle au moment du conseil, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors on va faire une fresque autour de ça parce qu'on voit que ça travaille. Et voilà, et du coup...
Donc c'est toujours relié au quotidien en fait.
Oui, c'est relié au quotidien et c'est relié aux problématiques qui émergent à partir de là où on est.
Et sur un cercle plus large, au niveau des ce qu'on va appeler les pouvoirs publics, sur la pérennité de l'association, est-ce que tu sens une évolution particulière depuis la naissance de l'association jusqu'à aujourd'hui? Comment ça se passe?
On a eu un gros problème au moment de la suppression des contrats aidés.
Donc ça remonte à
Il y a 2 ans.
2 ans.
Ouais. Donc on a tenu 1 an, et puis là, cette année, ça a été vraiment un peu critique. Alors les contrats aidés ont été remplacés par d'autres formes de contrats aidés, mais beaucoup moins aidés. Donc comme ça représente une grosse part du budget, c'était un moment dans lequel on est encore très compliqué. Mais du coup, on a un peu tiré la sonnette d'alarme en disant bah, « là, on est sur le point de s'arrêter ». Donc est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et là, on a senti qu'il y a commencé à y avoir un intérêt. Bon, c'est un peu dommage de devoir être sur le point de mourir pour qu'on s'intéresse à nous, mais du coup on a découvert aussi que de la part des institutions ils découvraient un peu notre travail et ce qu'on faisait en disant comment ça se fait que vous avez un budget aussi réduit par rapport à votre volume d'activité. Quand on présente juste les chiffres des participations, des fréquentations, des ateliers de rue, toutes les sorties qu'on fait, tout ce qui se passe autour.
Et ça, c'est quand vous étiez pris à la gorge qu'ils en ont pris conscience.
Ouais. Mm-hmm. C'est là très récemment. Donc là, j'aurais envie de dire, il y a peut-être quelque chose qui commence à bouger. Mais ça reste quand même compliqué aussi. C'est-à-dire, on a des institutionnels qui disent c'est très bien ce que vous faites, mais qui se renvoient un peu la balle au niveau des financements, en disant, même autour de la table, qui disent bon, bah, qu'est-ce que tu peux mettre, toi? Ah non, mais moi, nous, on est un peu serré. Ah bon, bah, toi, non, bah, enfin. Tout en disant c'est très bien, sont pas toujours prêts à mettre les moyens qu'il faut pour que ça existe.
C'est du renvoi de service à service en fait au niveau des pouvoirs publics.
Et, ouais. Et puis du coup comme on est un peu hybride, ils peuvent toujours jouer un peu sur le fait qu'ils savent pas trop où nous placer.
Vous vous faites balader. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un référent au niveau pouvoir public qui a vraiment conscience de vos activités et au niveau social de ce que ça peut apporter au quartier et...
Alors, il n'y a pas un référent, ces têtes changent beaucoup. Du coup, on est obligé de faire souvent ce même travail.
Ce qui est bizarre,
c'est que les têtes changent. On a l'impression qu'elles changent plus vite chez les institutions que nous, dans notre structure.
Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui viennent, des pouvoirs publics, sur le terrain pour constater ce que vous faites ou pas? Non. Donc, ça reste en fait des appréciations, de bureaux, de technocrates, qui voient ça d'en haut et qui n'ont pas vraiment conscience des apports au niveau social, au niveau humain, de ce qui se passe au quartier. Sur le quartier.
Dans tous les cas, en définitive, ceux qui décident d'attribuer les subventions, ils ne viennent pas sur le terrain. Bon, après, il y a des agents de secteur. Enfin, voilà, les agents de secteur qui savent ce qu'on fait, qui voient bien que les gens parlent de nous, même s'ils viennent pas eux sur les ateliers de rue, ils voient bien que les gens parlent de nous. Donc, ils savent qu'on est connu. Eux, ils savent qu'on est vraiment là, quoi.
Et qui sont un peu les intermédiaires entre vous et les pouvoirs publics.
Voilà, qui peuvent être là les intermédiaires entre nous et les pouvoirs publics. C'est ça qui peut nous aider, quoi.
Okay. Et en cas de problème, par exemple, si l'association est vraiment, vraiment en difficulté et risque de disparaître, est-ce qu'il y aurait un mouvement au niveau des habitants qui aurait une dynamique suffisamment forte pour influer ou les gens seraient plutôt dans la « Ah, c'est dur ce qui nous arrive » et désespérer un peu et de faire baisser les bras? Ou il y aurait éventuellement une dynamique à ce niveau-là?
Je ne suis pas sûr actuellement. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait venir dans les années à venir. Là, là récemment, par exemple, il y a des femmes du quartier qui sont mises dans le CA, qui sont rentrées dans le CA de l'asso. C'était pas le cas au départ. Il pouvait y avoir des implications fortes sur de l'organisation, sur des événements, même sur animer des ateliers de rue de personnes du quartier, mais pas dans le fonctionnement de la structure. Là, ça c'est assez récent.
Ça tient à quoi, d'après toi?
Ça tient à au fait qu'il y a une partie de ce travail-là des résultats de ce travail-là qui se voient dans la durée, quoi, et qu'on arrive à ce moment-là, nous.
Ce serait une prise de conscience de l'utilité du projet?
Ouais, de sa solidité aussi.
D'accord.
Du coup, après, on est aussi avec des personnes qui luttent déjà au quotidien pour leurs problématiques en permanence. donc qui ne sont pas forcément celles qui auraient en plus de l'énergie, du temps à consacrer à venir défendre une structure, enfin en plus de ce qu'il faut déjà. Donc,
mais est-ce que ça ne serait pas un soutien justement par rapport à des problématiques plus personnelles, d'avoir une structure qui, selon l'expression consacrée, qui crée du lien et qui peut justement épauler parce qu'on a plusieurs personnes qui sont dans les mêmes problématiques et qui peuvent, avec justement l'approche de Paulo Freire, qui peuvent faire prendre conscience que ces problèmes-là, en fait, ils ne tombent pas du ciel et qu'on les partage et qu'on peut éventuellement faire corps là-dessus.
Ben voilà, mais c'est ça qui prend du temps. C'est qu'il y a déjà un moment donné, un premier moment où nous, on vient en soutien sur des problématiques, et on peut venir donner des coups de main ponctuels sur des problématiques sociales, etc. Je pense dans un deuxième temps, du coup, une conscientisation du fait qu'on n'est pas seul avec ces problématiques-là, que d'autres la partagent et qu'avoir des structures qui nous permettent d'être soudés face à ces problématiques-là peut nous aider.
Il vous arrive d'avoir justement de faire un lien entre les problématiques des gens au niveau social et l'administration, d'être conseil parce que vous avez, vous, des connaissances sur la structure. Vous intervenez là-dessus ou pas ?
Oui, ça nous arrive. En fait, on est souvent sollicité là-dessus, donc de fait, on le fait. Disons que nous, c'est pas notre vocation, mais...
C'est une nécessité.
Comme c'est une nécessité, et que c'est la nécessité du moment pour les personnes du groupe, bah, solidaires pour y répondre. Voilà.
Ça vient presque d'office, comme on disait tout à l'heure, c'est le quotidien qui fait foi et qui fait la loi.
Et ça, c'est tellement le quotidien des gens, de beaucoup de gens du quartier, que forcément, si on veut partager le quotidien, on partage ça aussi. Voilà. Et bon voilà, il se trouve qu'on a aussi nous, des stagiaires qui viennent d'écoles de travailleurs sociaux, qui viennent pour découvrir l'aspect pédagogie sociale et tout ça, mais qui du coup, eux, en école, ont plus cette approche-là aussi d'accompagnement individualisé sur des aides aux démarches, des choses comme ça.
Donc. Les gens qui travaillent, donc, qui ont travaillé, qui travaillent avec Madame Moutabaga, dans Madame Moutabaga, le personnel, on va dire, on va l'appeler comme ça, qu'est-ce qu'ils en sortent comme expérience? C'est gratifiant pour eux? Ils sont agréablement surpris? C'est dur? Ils perçoivent des choses au quotidien au niveau social qu'ils ne percevaient pas?
Bah, ça laisse personne indemne, en tout cas, de passer par là. Ça, je crois que ça c'est clair. Il y a des personnes qui découvrent à la fois que l'image qu'ils avaient du quartier, l'image d'un espèce de ghetto, de coupe-gorge, qu'ils pouvaient avoir, que bah, ça s'effrite complètement quand ils arrivent là. Mais qui, par contre, peuvent prendre la conscience aussi de la réalité que vivent certaines personnes, des situations de misère que peuvent vivre certaines personnes. Et ça aussi, ça peut... il peut y avoir des prises de conscience assez douloureuses de ce côté-là. Le fait de aussi... nous, dans l'équipe, on a vraiment un fonctionnement où il y a beaucoup de place pour l'initiative, on discute beaucoup des décisions, de comment on s'organise, on le fait beaucoup ensemble, quoi. Il n'y a pas vraiment un directeur ou une directrice. Donc il y en a qui apprennent ça aussi, quoi, ce fonctionnement un peu collectif, qui est un peu déstabilisant au début pour certaines et certains.
Comment vous fonctionnez sur d'éventuels désaccords, tensions? Ça se règle comment? Vous avez des...
On n'a pas de méthode par rapport à ça, non. Ça nous est arrivé... de faire du débat mouvant sur des questions clivantes, par exemple sur la question d'aller demander des sous aux fondations privées.
Oui, justement, c'est un bon exemple. Ouais. Ça se passe comment entre vous?
On n'est pas d'accord sur ces, questions-là, mais voilà, pour l'instant, on fait pour l'instant, ça s'est jamais présenté qu'on doive vraiment, par rapport à une décision, faire un vote à la majorité. C'est toujours.
Il y a l'arrangement avant.
Un arrangement qui se fait sur le moment par rapport au contexte, là où on en est, et qu'on dit on se repose la question plus tard, on essaye d'avancer là-dessus, sur cette question-là. Et voilà.
Donc Madame Moutabaga va plutôt bien?
Je pense qu'elle sera toujours dans une passe difficile, de toute façon, c'est une survivante.
Justement, on en parlait.
Elle restera, je crois.
Merci Robin.
Merci à toi.
ton poste à Madame Rutabaga ?
Eh bien, ça fait 4 ans que je fais partie de l'équipe bénévole et du CA.
Et quelle est ta motivation pour être depuis 4 ans bénévole ? Ce qui n'est quand même pas fréquent.
Ma motivation, c'est que je me suis formée à la pédagogie sociale donc il y a 4 ans avec l'association Madame Rutabaga. Et j'ai découvert qu'il y avait plein de réponses au niveau pédagogique que je n'avais pas eues avant. Et des attentions sur certains aspects de comment on est ensemble, comment on n'est pas là pour contrôler les enfants, mais plutôt tous avoir le pouvoir sur soi-même, quoi. Et en même temps, de pouvoir poser des règles pour faire des choses collectivement. Donc voilà, et ça m'a tellement plu que je suis restée dans l'association.
Et tu as encore l'intention d'y rester ?
Bah oui.
Qu'est-ce que tu as comme formation ?
Moi, je suis architecte.
Qu'est-ce que tu penses de la Villeneuve au niveau architecture ?
Moi, je pense rien au niveau architecture. J'aime beaucoup ce quartier parce que je le connais depuis longtemps. Que le fait de faire des choses régulièrement dans des associations et notamment avec Madame Rutabaga, de rencontrer plein de monde, ça crée des attaches. Et voilà, après, c'est un quartier qui est particulier, qui a une histoire, qui est très spécial au niveau architectural. Donc, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. En tout cas, c'est riche, quoi. C'est très bien. Il y a plein de choses qui sont très bien pensées et du coup, ça donne une qualité de vie qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres quartiers. Par exemple, les appartements sont très bien isolés, ils sont orientés toujours de côté, donc on a toujours le soleil, on a des vues magnifiques sur le paysage. Voilà, plein de choses comme ça.
Moi, ce qui m'a surpris en arrivant dans le quartier, c'est surtout le côté végétal. C'est hyper végétalisé, c'est quand même relativement rare dans le quartier.
Je ne sais pas par rapport à quel quartier vous faites la comparaison.
Celui où j'ai grandi, okay. À Saint-Ouen, donc en banlieue nord de Paris, où c'était des bars et j'ai jamais vu l'ombre d'une herbe ou d'un arbre. Et quand j'arrive ici, j'ai l'impression de rêver, quoi.
En fait, le quartier, il a été construit dans les années 80. Fin des années 70 et jusqu'en 85. Et en fait, c'était une période où on pensait beaucoup la ville-campagne sur le modèle de la ville moderne. Et du coup, c'est pas du tout les cités qui ont été construites dans les années 50 ou 60 qui étaient vraiment tout de suite, il faut construire beaucoup avec des morceaux de béton préfabriqués. Là, c'est un quartier qui a été quand même vraiment pensé comme un bout de ville-campagne. Et donc, il y a un parc au milieu. Et donc les bâtiments sont tout autour et donc il y a un rapport à la végétation qui a été très, très présent, très, très pensé.
Et au niveau de la vie du quartier, tous ces préjugés qu'on a, tout ce qu'on entend, les stéréotypes sur les quartiers, là j'ai aussi la bonne surprise de me rendre compte que l'ambiance est plutôt sympa, alors je fais que y passer. L'intégration se passe plutôt bien, si on veut employer un mot un peu
alors,
rebattu.
Moi je trouve que ça c'est une question de journaliste. Je ne sais pas si j'ai envie d'y répondre. Des formes de violence, il y en a partout sur Terre et elles sont propres à chaque lieu. Et du coup, il ne suffit pas de dire c'est violent ou c'est pas violent, ou c'est problématique, c'est pas problématique. En fait, pour moi, c'est une vision simpliste. Il y a des choses qui sont violentes, mais qui ne sont pas forcément...
plus violentes qu'ailleurs.
En tout cas, elles peuvent être différentes ou j'en sais rien, mais c'est un sujet en soi. En tout cas, je pense que les médias se posent beaucoup cette question-là et que c'est bien de regarder les choses sous d'autres prismes. Et peut-être qu'il y a des choses qui racontent, peut-être des formes de violence que les gens peuvent vivre, qui vont se raconter à travers d'autres points de vue. Mais d'aborder cette question frontalement, moi, je trouve ça pas très intéressant.
Et pourquoi, d'après toi, les médias, ça devient récurrent qu'ils se posent cette question de la violence, de trafic et autres ?
Déjà, c'est une histoire qui est longue. Enfin, ça date des années 80, le traitement médiatique des banlieues. D'ailleurs, de quelle banlieue on parle, on ne sait jamais. Enfin, voilà. Et il y a des violences sociales qui existent dans certains quartiers parce que, en fait, ils sont rassemblés les personnes qui ont le moins de moyens dans la société et qui vivent des violences sociales, symboliques, etc.
Très voilà. Forte.
Et donc, il y a une image parce qu'elle est identifiée à un modèle architectural. Et à un type de construction. Alors que, par exemple, on parle assez rarement de la violence dans les campagnes. Et du coup, je pense que le fait que spatialement, on ait construit en fait, des quartiers avec des critères particuliers, ça a permis qu'on invente une image de ces quartiers-là sans se poser la question... Alors que dans d'autres lieux, c'est tellement épars...
C'est plus dilué.
...que c'est moins identifié. Et puis surtout, comment dire... Il y a une histoire aussi de la gestion, de l'arrivée en fait de tout un tas d'immigrés, de travailleurs immigrés à une époque. Et en fait, à cette époque-là, on construit les grands ensembles et on loge les travailleurs immigrés. Et donc, il y a aussi tout un racisme d'État en fait qui existe et une vision très surplombante de cette problématique-là. Et donc, ça a collé en fait ça a collé plusieurs images stéréotypées dans des endroits. Et du coup, on a inventé ce problème des quartiers. Mais il y a des gens, il y a des chercheurs qui expliquent en fait ces choses-là en finesse. Et je pense que c'est une question très complexe.
Il y a aussi peut-être la notion de diviser pour mieux régner, pour les pouvoirs publics.
Je sais pas, parce que les diviser pour mieux régner, ce serait se poser la question de qui fait ça. Et c'est une réponse qui n'est pas d'un seul tenant. Moi, ce que j'ai envie de dire à votre question, c'est que la Villeneuve, en tout cas, c'est particulier. Ça a été construit, donc, ce que je disais, dans les années 70-80. C'était un projet du PS et de militants de gauche, plutôt de classe moyenne. Et ce n'est pas du tout un quartier qui a été pensé comme un quartier reclus, mais plutôt un quartier pour les classes moyennes.
D'accord.
Et donc, en fait, sociologiquement parlant, c'est un quartier qui est très mixte, qui a accueilli plusieurs vagues d'immigration, notamment, par exemple, les réfugiés chiliens, les réfugiés politiques. Voilà, donc en fait, il y a une diversité qui, apparemment, selon certains, est propre à ce quartier-là. Il y a une histoire militante aussi, parce que c'était un projet qui était porté politiquement par une mairie de gauche. Après, il y a plein de critiques à faire à toute cette histoire, à l'utopie que ces gens-là avaient, comment la réalité en fait, sociale, nationale, a rattrapé cette utopie-là. Il y aurait plein de choses à dire. Par exemple, il y a un super livre qui s'appelle Plaidoyer pour Villeneuve, qui retrace un peu l'histoire du quartier. Qui a été écrit par une association qui s'appelle l'association Planning, voilà, qui travaille dans le quartier. Et après, enfin, il y a plein de voilà, il y a plein de choses à se renseigner sur ça. Moi, je peux pas parler au nom des quartiers de France. Moi, j'ai grandi à la campagne. Du coup, j'ai pas de message à porter sur ces choses-là.
T'as pas de contentieux. Et le travail de Madame Rutabaga, pour toi, ça représente quoi dans un quartier comme ça ?
Bah, moi, je trouve que le travail de Madame Rutabaga, ça pourrait se faire partout.
Oui.
C'est une pratique pédagogique. Ça répond énormément aux questions d'isolement et d'individualisme dans lesquelles on a grandi, ou en tout cas dans une société qui nous pousse à ça. Et qui nous montre pas trop d'autres manières de faire. Et du coup, moi je trouve que c'est une super expérience. Et ce qui est chouette à la Villeneuve, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces publics qui sont libérés de la voiture. Et donc, on a vraiment de la place pour se retrouver. Les enfants sont déjà souvent dehors et beaucoup laissés par leurs parents parce qu'il n'y a pas ce danger-là. Et donc, moi, je retrouve un peu, par exemple, ce que je pouvais faire quand j'étais à la campagne. C'est-à-dire, on n'avait pas de limite. On y allait, on faisait nos jeux, on construisait ce qu'on avait à construire. Et donc, c'est ce qu'on fait là, ensemble. Donner les moyens de le faire. Et puis, comme vous voyez, en fait, il y a les immeubles qui entourent les espaces publics, et du coup souvent les enfants descendent dans un périmètre où les parents peuvent surveiller.
Ouais.
Donc ça crée une forme de liberté, et en même temps il y a une veille qui est là de la part des adultes.
Puis ils sont au milieu des géants qui veillent sur eux.
C'est ça.
Merci Morgane.
De rien.
Merci.
Merci.
Bonjour, donc, je suis Pierre, l'intervieweur, vous vous appelez ?
Je m'appelle Naomi.
Et chez Madame Otabaya, vous faites quoi ?
Je suis en service civique depuis début janvier 2019 et mon service civique se finit fin juillet.
Et votre rôle dans, chez Madame Otabaya ?
Comme un peu tous les services civiques, on prépare les ateliers, on fait les ateliers selon nos centres d'intérêt. Donc moi j'ai beaucoup de choses autour de l'écriture, des arts plastiques, de l'expression de soi sous forme de peinture, de parole, etc. Donc après c'est selon les demandes.
De par votre formation ?
Alors, moi j'ai une formation en psychologie à la base, je suis diplômée en psychologie et je voulais avoir un service civique plus dans le domaine du social pour compléter en fait et avoir une nouvelle approche.
D'accord.
Mais du coup j'essaie de relier les deux dans ma pratique. Ouais.
D'accord. Donc pour vous l'approche du terrain, ça vous apprend aussi pas mal de choses ?
Ah oui, ouais. Beaucoup plus qu'à l'école.
Qu'à l'école.
Et on apprend beaucoup plus j'apprends énormément des enfants dans les interactions, etc.
Vous avez quelle image, vous, de Madame Otabaya, avant d'y rentrer ?
Et bah moi je me suis dit c'est génial que quelque chose comme ça existe à la Villeneuve. Je suis originaire de Grenoble, donc j'ai toujours connu la Villeneuve de l'extérieur. Et je trouvais ça génial qu'on puisse proposer justement ce genre d'atelier et permettre aux enfants d'accéder à plein de choses auxquelles ils n'ont pas forcément accès en temps normal. Donc pour moi, j'ai plus vu ça comme une chance et en me disant si moi je peux mettre ma petite pierre à l'édifice dans tout ça, c'est hyper enrichissant pour tout le monde.
Et ça ouvre quoi comme perspective pour vous après ?
Alors moi, du coup, ça m'a orientée sur le public que je veux accompagner, donc sur un public plutôt pré-ado ou adolescent. Donc ça m'a quand même permis de savoir avec quelle tranche d'âge j'étais plus à l'aise. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus m'orienter vers le domaine du social plutôt que vers la psychologie. Donc,
D'accord.
Donc après, on verra. En tant que travailleuse sociale, il faut que je complète un peu ma formation. J'ai une idée peut-être de structure que je voudrais monter qui peut ressembler un peu à Madame Otabaya.
Ok.
Mais voilà, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup enrichi. Et je pense que pour tous les services civiques, c'est le cas.
Ouais. Donc pour vous, c'est une bonne entrée en matière, en fait, dans la vie professionnelle.
Ça, c'est sûr. Surtout dans ce domaine-là, dans le domaine du social, c'est quand même difficile de pouvoir rentrer dans une structure sans avoir forcément d'expérience. Et du coup, Madame Otabaya, les bras ouverts à tous ceux qui ont des nouvelles initiatives, des nouvelles idées, et ils prennent plaisir aussi à former des nouvelles recrues. Donc, c'est vraiment génial. Ouais.
Merci beaucoup.
De rien.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Haddad Aïcha.
Aïcha, c'est votre prénom ?
Oui.
Donc, vous habitez la Villeneuve ?
J'habite ici, à Place de Géant.
Oui. Donc, vous connaissez Madame Otabaya ?
Je la connais, ça fait... Il n'y a pas longtemps.
Hein. Pas long. Vous êtes là depuis combien de temps ?
Oh, moi ça fait presque 34-35 ans que je suis là.
Ah oui, ok, d'accord. Et vous pensez quoi alors de Madame Otabaya ?
Je trouve que très bien.
C'est très bien.
Pour les enfants, qu'est-ce qu'ils font ?
D'accord.
Ils se réunissent les familles, réunissent les enfants, ils s'en occupent. Okay. Et ils sont dynamiques.
Dynamiques, oui.
Ils sont très 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 bien.
D'accord.
Voilà.
Qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autres
Qui mettent la place ici, les chaises.
Qui mettent des chaises là, sur la place, qui a plus d'endroits pour s'asseoir.
Voilà.
Oui.
Ils ouvrent le jardin, comme ça les enfants pourraient y aller faire le jardin.
Oui, parce qu'il n'est pas toujours ouvert, le jardin.
On a embouclé là, ces vieilles courges là qui sont là. C'est mon idée, pourtant. Hein.
Oui. Ah, c'est votre idée, le jardin ?
C'est mon idée,
okay,
le jardin.
D'accord.
Alors, eux, ils ont mis entre eux, ils ne nous ont jamais appelés.
Mais qui est-ce qui s'en occupe ?
Je ne sais plus, il y avait des femmes de l'Arlouquet qui s'en occupent.
D'accord. Voilà. C'est pas Madame Otabaya qui s'en occupe ?
Non, pas.
Ok, d'accord.
Et vous, il se met ici. Moi, j'ai trouvé qu'ils s'occupent bien des enfants. Et ils font bien les goûter, ils font bien leur travail. Après, de là, ils vont encore à l'Arlouquet.
Qu'est-ce que c'est, l'Arlouquet ?
À l'Arlouquet aussi, ils font
l'animation.
L'animation.
Ouais.
Moi, depuis qu'ils sont là, on est content avec les enfants, mes petits-enfants, les voisins,
ouais,
et tout le monde.
Oui, voilà. C'est ça, vous voyez du monde, vous échangez entre vous.
Voilà.
Okay.
Bon.
Bah oui, c'est les enfants. Ok.
Et voilà.
Merci, Aïcha.
De rien.
Merci beaucoup.
Moi, je trouve très bien. Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Clarence.
Clarence. Vous êtes service civique ?
Oui, c'est
donc
ça.
Et Madame Otabaya, c'est quoi pour vous ?
Madame Otabaya, c'est une association d'éducation populaire à la Villeneuve qui fait des ateliers pour tout le monde, voilà, en libre service.
Et vous, votre rôle, votre poste, c'est ?
Pour l'instant, là, je fais le magasin gratuit, j'ai repris, c'était une autre qui s'en occupait. Et donc, en fait, on est là une fois par mois et on met du linge à disposition comme un magasin. Les gens peuvent choisir et l'emporter chez eux. Et s'ils ont des choses qu'ils n'utilisent pas, ils peuvent nous le ramener.
Donc c'est essentiellement des vêtements ?
Essentiellement, mais on a aussi eu des cafetières, des radios, d'autres choses.
D'accord.
On ramène pas tout, on en a énormément au local.
Ok. Et donc, voilà. Et donc vous êtes là une fois par mois ?
À peu près,
ouais. Sur la Villeneuve. Ouais. Ça va ? Ça marche ?
Ça marche mieux d'habitude.
Ouais. Bah là, il fait beau, les gens sont en balade.
Ouais.
Ok. Vous êtes donc en service civique sur une période d'un an ?
8 mois.
8 mois ? D'accord. Vous êtes arrivé quand ?
En avril, mi-avril.
D'accord. Et vous veniez d'où ?
J'étais étudiante sur Grenoble, mais j'ai arrêté et j'ai trouvé Madame Boutabaga.
Ah oui, ok. Ouais. Vous étiez étudiante en quoi ?
En management, en hôtellerie-restauration.
Oula, ok. Et pourquoi vous avez quitté ? Pourquoi vous avez penché pour Madame Boutabaga ?
J'avais besoin d'un peu plus de social. Et le management, c'était trop capitaliste pour moi et je pouvais pas.
Et puis c'est de la classe, c'est du bureau,
ouais,
c'est de...
Ça.
C'est de la... D'accord, vous aviez besoin de terrain en fait,
oui.
D'être en contact avec les gens.
Oui, oui.
Vous êtes servi là. Merci Clarence.
En fait, merci. Merci à vous.
C'est tout trempé derrière.
Bonjour, vous vous appelez comment ?
Garance.
Garance, vous êtes quoi chez Madame Boutabaga ? Vous faites quoi ?
Je suis en stage pour 2 mois et demi. Je suis en école de travailleur social, moi.
D'accord. Moi je veux pas parler, non, moi je veux pas parler.
Vous avez quel âge ?
J'ai 25 ans bientôt.
D'accord. Et votre formation, là, vous êtes...
En formation d'assistante sociale.
Assistante sociale.
Ouais.
Vous êtes arrivée chez Madame Boutabaga comment ?
Ben, parce que je connaissais l'association, parce que sur le quartier, et notamment sur Grenoble, elle est assez
connue. Je prends ta place.
Vas-y, je vois ma place, Michel. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire mon stage ici, et il s'avère qu'on a eu une liste d'associations pour faire des stages, et du coup, j'ai choisi ici.
Et le critère de choix, c'était quoi pour vous ?
Bah, moi, il y avait un peu le fait que ce soit une association qui soit un peu loin de tout ce qui est institutionnel, et j'avais besoin de ça, de m'émanciper de ça, et le choix d'un engagement politique aussi par l'asso.
Et quand vous parlez d'engagement politique, c'est votre engagement, il concerne quoi ? C'est quoi vos idées, vos convictions ? Qu'est-ce que vous souhaitez à travers votre poste ici de stagiaire ?
Moi, c'est plutôt de remettre un petit peu en mouvement la Villeneuve, apporter quelque chose ici qui est globalement un peu oublié par les politiques publiques. Et du coup, voilà, je me dis que j'apporte un peu ma pierre à l'édifice comme je peux.
Et ça se passe bien ?
Ouais, voilà. Super bien.
Super.
Je suis bien intégrée.
Ouais. Grâce aux enfants ?
Grâce aux enfants, grâce aux parents et tout le monde, en fait, globalement, l'équipe, elle est porteuse aussi.
Ouais, apparemment, ça se passe bien. Hein. Quand on entend ce qu'on entend sur les quartiers, qu'on arrive ici,
oui, on
franchement,
peut pas y
c'est
croire.
La bonne surprise. Quoi. Ouais, ça fait du bien. Hein.
Oui, ça fait du bien. Et puis, c'est aussi ça que je pourrais aussi véhiculer après, c'est qu'il faut sortir
des stéréotypes.
Voilà, et venir y mettre un pied et voir ce que c'est aussi avant de...
Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà fait quelques interviews dans le social. Je me rends compte qu'en fait, tout ce qu'il peut y avoir de plus vivant au niveau de la vie de quartier, ça se passe dans ces quartiers-là. Et il faudrait peut-être oublier, voire casser cette image que les quartiers dits difficiles, c'est quand même là où il se passe aussi des belles choses, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est d'arriver aussi à voir toutes les potentialités et les ressources qu'il y a dans ces quartiers et la force du collectif qu'on n'a pas ailleurs.
Ouais.
Enfin, c'est ça qui porte.
Ouais. Merci beaucoup. Bonjour madame.
Et bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Malika.
Vous êtes à la Villeneuve depuis combien de temps ?
Ça fait 20 ans.
20 ans ? Ok. Qu'est-ce que vous pensez de madame Boutabaga ?
Ben, je trouve que c'est bien. Moi, j'avais un problème de pression. Ça fait des mois que je ne suis pas sortie. Un jour, je suis sortie juste comme ça pour chercher le courrier et tout. Je trouve une fille en train de faire la peinture et tout. Et je demandais c'est quoi cette association. Elle m'a expliqué tout ça. Et elle m'a dit, vous passez boire un café et tout. J'ai passé un jour boire un café. J'ai bien aimé. Et depuis ce jour-là, je vais les voir souvent. Nulle part je vais, à part que je vais chez eux. Voilà. Et je trouve que c'est bien, ça m'a aidé vraiment. La place là, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas vue. Et grâce à eux, je sors un peu sur la place et tout ça, et ça m'a aidé.
Donc ça vous a permis de sortir de dépression carrément ?
Ah oui,
ok. Retrouver des gens avec qui vous avez des contacts régulièrement ?
Oui, oui.
Ouais.
Quand ils sont là, je sors.
Ouais. Voir les enfants heureux ?
Oui, j'aime bien,
D'accord.
Ça donne une ambiance, ça bouge un peu le quartier. Ça, voilà. Là, c'est le ramadan, il n'y a pas beaucoup de monde, sinon d'habitude, il y a plus de monde.
Okay.
Moi, je l'encourage en plus, j'aimerais bien qu'ils font des autres choses aussi, je sais pas.
Quel genre de choses?
Je sais pas, des autres associations comme ça sur Grenoble, quoi.
Oui, d'accord.
Pas dans ce quartier, c'est tout. Un peu partout, quoi, à Grenoble.
Vous avez des enfants ici?
Oui, j'ai des enfants, mais ils sont grands, ils sont plus là.
Ils sont plus là, d'accord. Ouais. Et vous faites quoi comme métier comme...
Je travaille pas.
Je travaille bien, d'accord.
Et c'est eux qui m'aident, quoi, moralement.
Merci, Malika. Merci.
De rien, c'est bonne journée.
Interview. Hey, le beurre.
L'interview du jour.